solidaire.
Bonjour. Cette semaine, dans Portrait d'Orient, un coup de projecteur sur Jean-Dominique Mercher. C'est un auteur passionné par la question militaire. Il a écrit un ouvrage de référence sur le conflit afghan. Mourir pour l'Afghanistan, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Je rappelle que l'élection présidentielle afghane a lieu le 20 août prochain. Bonjour Jean-Dominique Mercher.
Bonjour.
Alors, une citation dans le premier paragraphe de votre livre qui donne le ton. « Parce qu'on ne comprend pas la thèse de ses adversaires, on s'entête en de vaines querelles. » Elle est de Jacqueline de Romilly. Et dans ce livre, en effet, vous tentez, vous allez me dire si je me trompe, de nous faire découvrir l'autre, c'est-à-dire l'Afghan que combattent les Occidentaux, c'est cela?
Oui, j'ai toujours essayé, dans ce livre, de me mettre à la place des gens, dans la manière dont ils peuvent réfléchir à la place d'un Afghan, à la place mais aussi d'un Russe, d'un Américain, d'un Français, d'un jeune Français qui combat en Afghanistan. Et je pense que c'est une façon d'appréhender le monde à travers des regards multiples, sans être forcément donneur de leçons, même s'il m'arrive de prendre position. C'est une façon effectivement plus respectueuse du point de vue de l'autre, y compris par exemple, il faut quand même essayer de comprendre qui l'Occident a en face de lui en Afghanistan, les talibans, essayer de comprendre comment réfléchissent les talibans. On peut les combattre, mais ça n'évite pas d'avoir à les comprendre et d'une certaine manière à se mettre à leur place à un moment.
Votre livre commence par un récit quasi journalistique, hein, celui de l'embuscade d'Ouzbin. C'était le 18 août 2008, lorsque, je le rappelle, hein, une patrouille française est tombée sous le feu des talibans. 10 soldats avaient été tués. Et c'est là que l'opinion publique, hein, prend conscience de l'engagement de la France dans la guerre lancée par les États-Unis.
C'est le point de départ de mon livre. Mon livre, c'est au mois d'août dernier, donc il y a cette embuscade, et tout d'un coup, l'opinion française, effectivement, comme vous le dites, découvre que nous sommes engagés dans une guerre qui est compliquée, dans une guerre qui est lointaine. Et j'ai voulu, après avoir raconté ce qui s'était passé lors de cette embuscade, je pense que c'est un récit assez circonstancié, assez complet, j'ai voulu essayer d'expliquer l'Afghanistan au lecteur français, au lecteur français pour qu'il essaie de comprendre dans quelle situation nous sommes, dans quel bourbier, parfois même un peu, nous sommes engagés. Voilà, donc ça c'est effectivement la démarche que j'ai entreprise.
Alors pour comprendre l'Afghanistan, ce pays mosaïque qu'aucune puissance étrangère, il faut le rappeler, n'a pu occuper durablement, il vous a fallu pénétrer dans chaque élément du puzzle que forme sa population, hein, c'est cela.
Alors je suis beaucoup passé par le regard des géographes. J'ai un goût pour la géographie et je suis allé voir les géographes qui ont travaillé sur l'Afghanistan, notamment un vieux géographe français qui s'appelle Xavier de Planolle, qui a fait un livre sur qui s'appelle les Nations du Prophète, qui est une sorte de fresque géopolitique, géographique du monde musulman. Et il décrit, dans son chapitre sur l'Afghanistan, il décrit l'Afghanistan comme étant une anti-nation, le contraire d'une nation. Je trouvais que c'est une très belle définition. Et c'est vrai que on a du mal à comprendre, parce que nous Français, nous raisonnons avec nos schémas, nos catégories de Français, la nation, l'État, un vieux pays, une langue commune, une indépendance de longue date. En Afghanistan, tout est un peu différent. Et donc, il faut déjà expliquer ça, expliquer que ce pays, effectivement, est un pays récent en termes de sa structure politique. Le premier État afghan n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Le rôle des différentes communautés qui structurent ce pays, dont les Pashtuns, et le fait, comme vous le rappeliez, que ce pays n'a jamais été intégré réellement dans aucun empire.
Alors vous faites référence, vous venez de le dire, hein, au géographe Xavier de Planolle, qui estime en effet que l'Afghanistan est une antination, que c'est, dit-il, le puzzle le plus extraordinaire qui soit, qu'il est dépourvu d'un centre capable de s'imposer à l'ensemble du pays. Pour vous, est-ce que c'est là le fond du problème en Afghanistan?
Oui.
L'absence de centre de décision?
Je pense que le fond du problème de l'Afghanistan aujourd'hui, effectivement, c'est l'absence d'un État historiquement qui s'est structuré d'une manière un peu toujours très fragile. Il y avait une monarchie, mais relativement débonnaire, des bonheurs à la manière de l'Asie centrale, c'est-à-dire quand même de temps en temps en faisant ce qu'on appelait des pyramides de tête, c'est-à-dire que on tuait quelques ennemis et on faisait au sens propre des pyramides avec leurs têtes. Mais néanmoins, c'est un pays qui, jusque dans les années 70, vit un peu à l'écart du monde et qui va rentrer dans une période de turbulence politique afghano-afghane dans les années 70. Donc l'absence de centre, oui. L'autre grand problème, mais je pense qu'on y reviendra, c'est cette absurdité de la frontière avec le Pakistan qui sépare les Pashtuns en deux pays. En deux pays. Absolument, c'est le cœur du problème d'aujourd'hui.
On va en reparler tout à fait tout à l'heure. S'il n'y a pas d'État-nation, au sens occidental du terme, je précise bien, comment vous expliquez-vous que depuis les Mongols, il y a maintenant 5 siècles, jusqu'à George Bush, hier, tous les envahisseurs se sont cassés les dents là-bas.
Mais parce qu'à chaque fois, ils sont tombés sur des gens qui n'avaient pas envie de collaborer avec eux. Mais il n'y a jamais eu de front unique afghan. C'est-à-dire que les Afghans ont toujours été divisés. Et les troupes étrangères qui ont tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle de ce pays se sont toujours appuyées sur une partie des Afghans contre d'autres parties des Afghans. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. On oublie souvent que les armées occidentales sont là-bas officiellement et dans la pratique aussi pour encadrer une armée d'Afghans. Ça a été le cas à l'époque communiste. Il n'y avait pas que les Russes, il y avait aussi une armée afghane qui combattait d'autres Afghans. Donc il y a toujours eu cette absence d'unité nationale. On ne peut pas dire que les Afghans sont contre l'occupation étrangère, mais il faut dire qu'il y a toujours eu suffisamment d'Afghans, soit pour des raisons géographiques dans telle ou telle région, ouais, soit pour des raisons tribales, soit pour des raisons de communautés pashtounes, tadjiks, etc., qui se sont opposés à des dominations étrangères et qui les ont toujours combattus.
Et qui ont toujours eu le dessus.
Et qui ont toujours eu le dessus.
Alors, quoi qu'on en pense, le phénomène taliban n'est-il pas aujourd'hui le seul élément fédérateur capable d'insuffler une conscience nationale là-bas?
Non, je ne le crois pas, parce que les talibans sont essentiellement des pashtouns. Les pashtouns, c'est la principale communauté du pays. Ils habitent surtout dans le sud-est de l'Afghanistan, c'est la principale communauté, c'est surtout la communauté qui a porté historiquement le projet de créer un État afghan. Et pendant longtemps, Pashtun, Afghan, c'était un peu synonyme. Les talibans sont des Pashtuns, et les talibans sont détestés par les autres communautés du pays, notamment les Tadjiks et surtout les Hazaras, qui ont connu des horreurs au moment de la domination taliban, les Hazaras étant des chiites, et par ailleurs vraisemblablement des gens d'origine mongole. Certains disent qu'ils sont les derniers vestiges des armées de Genghis Khan quand elles ont envahi le pays. Voilà. Donc non, les talibans sont encore l'expression d'un particularisme national, du principal particularisme national, mais d'un particularisme quand même.
Alors à propos de particularisme justement, de spécificité de cette société, vous insistez longuement sur le relief de ce pays. Est-ce si important le relief dans la formation de l'état d'esprit de chacune de ces communautés?
L'Afghanistan, on a vu les images, c'est une montagne, et une montagne ouverte. Donc une montagne, ça veut dire que les communications y sont très difficiles, et c'est un peu comme la Suisse, vous voyez, il y a des particularismes locaux très forts. Chaque vallée, finalement, vit sur elle-même, vit repliée sur elle-même, parce que les communications sont difficiles, et que le pays est en plus extrêmement pauvre. Mais c'est en même temps une montagne ouverte, c'est-à-dire qu'elle est ouverte sur ses voisins. C'est assez facile d'entrer en Afghanistan depuis le Pakistan, depuis l'Iran, depuis l'Ouzbékistan. Ce sont des frontières ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle naturel. Donc c'est à la fois une montagne et un pays ouvert. Donc effectivement propice aux invasions, propice ou aux réfugiés qui peuvent quitter le pays assez facilement, et en même temps propice à une fragmentation du fait de sa géographie avec des vallées isolées les unes des autres.
Alors c'est ce qui explique, selon vous, que les Pashtuns, par exemple, sont plus ouverts que d'autres dans cette société?
Alors, est-ce que les Pachtounes sont plus ouverts? Ça, je ne le dirais pas comme ça. Les Pachtounes sont un peuple... On pense qu'il y a à peu près 40 millions de Pachtounes entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est un peuple dont la définition est assez compliquée. En fait, un ethnologue dit « est Pachtoun celui qui se reconnaît comme Pachtoun ». C'est-à-dire celui qui adhère à un code d'honneur qui s'appelle le Pachtoun Wali, qui fixe des règles extrêmement strictes du comportement quotidien et qui détermine finalement l'identité de ce peuple. C'est un peuple qui a une forte identité nationale et qui en même temps est extrêmement divisé entre des tribus différentes qui ont passé leur temps dans l'histoire à s'affronter. Donc le principal problème, c'est que ils sont répartis des deux côtés de cette frontière purement artificielle qui a été tracée par les Britanniques au XIXe siècle, qu'on connaît sous le nom de la ligne Durand. Et effectivement, c'est une frontière coloniale absurde. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, l'administration américaine a bien compris que le problème était en Afghanistan et au Pakistan. D'ailleurs, ils ont forgé un mot, ils parlent d'AFPAC, Afghanistan-Pakistan, pour aborder le problème d'une manière, parce qu'on ne peut pas, se contenter de traiter le problème d'un côté de la frontière alors que cette frontière est complètement ouverte.
Voilà, et justement, ça m'amène à vous demander souligner que ce qui complique un peu plus les choses, ce sont les liens que chacune de ces communautés entretient avec son voisin de l'autre côté de la frontière. Et là, les jeux d'influence, à commencer par le Pakistan, sont redoutables et quasiment impossibles à gérer par une puissance étrangère lointaine de surcroît.
Absolument. Donc, on a souvent tendance à dire chez nous, en France et en Occident, oui, mais évidemment, le rôle des Pakistanais dans cette affaire, s'il n'y avait pas le Pakistan, ça irait mieux. Certes, sauf que le Pakistan existe et qu'il n'est pas prêt de disparaître et qu'il n'y a pas de solution en Afghanistan sans le Pakistan. On ne peut pas exclure le Pakistan. D'abord parce que c'est le même pays d'un côté et de l'autre. C'est le Pachtounistan, si on... vous me permettez ce mot. Je fais une comparaison dans mon livre. Je dis, imaginez qu'au XIXe siècle, la France et l'Italie se soient accordées et passé un traité pour se partager la Corse. Et qu'on ait dit, voilà, y a une frontière qui passe au milieu de la Corse. D'un côté, c'est la France, de l'autre côté, c'est l'Italie. Est-ce qu'on croit un instant que les Corses auraient respecté cette frontière? Évidemment non, ça aurait été en permanence la contrebande du passage, et bien c'est exactement ça qui s'est passé là-bas. Donc ne soyons pas surpris ne soyons pas surpris que cette frontière soit un peu poreuse.
Portrait d'Orient, nous sommes avec Jean-Dominique Mercher, l'auteur de l'ouvrage « Mourir pour l'Afghanistan » aux éditions Jacob Duvernay. Récemment, un intellectuel pakistanais de renom expliquait sur une chaîne de télévision satellitaire arabe que les chefs talibans d'aujourd'hui n'étaient rien d'autre que les héritiers des dirigeants communistes des années 70. Des hommes qui auraient troqué, ajoute-t-il, le capital de Karl Marx contre le Coran. Qu'est-ce que vous en pensez? Les uns et les autres avaient bien les mêmes ennemis, à savoir la corruption, la malgouvernance et l'injustice sociale aussi.
Oui, c'est une thèse séduisante. Je suis pas sûr de la partager totalement, mais c'est une thèse séduisante. C'est par exemple très vrai sur les talibans. Les talibans sont un mouvement peut-être plus complexe que ça. En tout cas, c'est très vrai en ce qui concerne un groupe islamiste, le groupe islamiste de Gulbuddin Hekmatyar, qui est au passage vraisemblablement le responsable de l'attaque contre les soldats français durant l'embuscade d'Ouzbid. Alors là, on est vraiment dans ce schéma. C'est-à-dire qu'il faut remonter dans les années 70. Ce petit à l'université de Kaboul, ça concerne très très peu de gens. C'est un tout petit milieu, les petites élites afghanes. Et là, une partie va virer dans le communisme, sous des tendances diverses d'ailleurs, qui vont s'affronter, et une autre partie va virer dans l'islamisme. Mais c'est vrai avec une vision révolutionnaire, modernisatrice, d'une certaine manière moderne. Ce ne sont pas des archaïques. Alors, les talibans, c'est autre chose. Les talibans, c'est un héritage de mouvements religieux islamistes des Indes britanniques du 19e siècle, le mouvement Deobandi, qui faisait une lecture très radicale de l'islam. mais très fondamentaliste de l'islam, mais d'une certaine manière une lecture non politique. Ce sont des gens qui n'aiment pas la politique, contrairement aux islamistes politiques. Ce sont des gens qui pensent que l'État, toutes ces choses-là, sont des choses sales, pas correctes religieux, du point de vue religieux, et donc c'est pas de ça dont il faut se préoccuper. Il ne faut pas se préoccuper de l'économie, il ne faut pas se préoccuper de l'État. Il faut se préoccuper de la morale religieuse. Et donc, quand les talibans ont gouverné l'Afghanistan, ils ont laissé de fait dépérir l'État. Il n'y avait plus d'État. C'était pas une dictature islamiste. C'était une sorte c'était pas la dictature d'un État islamiste. Ils avaient d'une certaine manière détruit jusqu'à l'État parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, voyez, on est quand même dans des faits. Alors que on peut pas dire ça des marxistes-léninistes, oui, qui ont un goût de l'État assez développé en général.
Voilà. Alors, certains aujourd'hui regardent en arrière et rappellent que lorsque les talibans régnaient sur Kaboul, un ordre moral extrêmement rigoureux y régnait. Et que dans le même temps, si vous voulez, la corruption avait considérablement diminué, le narcotrafic avait totalement disparu, alors qu'aujourd'hui, il est remonté de manière exponentielle. Vous en pensez quoi
Mais c'est tout
avec le recul.
Alors, c'est tout le paradoxe, une nouvelle fois, décidément un pays paradoxal. Et quand les talibans arrivent au pouvoir à partir de 1996, pourquoi ils sont dans un premier temps bien accueillis? Tout simplement parce qu'ils rétablissent l'ordre et la sécurité dans un pays qui sortait d'un quart de siècle de guerre civile, d'affrontements communautaires, d'affrontements armés. Kaboul a été ravagé au sens propre par les affrontements entre les milices, les différentes milices, celles de Hekmatyar, celles de Massoud, celles des communistes.
Dostum,
enfin bref, tous ces gens extrêmement sympathiques. Et donc, ils ont ravagé le pays. Et quand les talibans arrivent, ils rétablissent l'ordre. Et enfin, voilà, tout simplement, les gens ne reçoivent plus de roquettes sur la tête. Donc, il y a ce côté de la paix civile. Et en même temps, c'est vrai qu'ils vont imposer un ordre extrêmement rigoureux, extrêmement détestable, voilà, interdisant la musique, se livrant à des exécutions publiques dans les stades, enfin des choses qui ne sont pas de nos... En tout cas, que de notre point de vue, nous condamnons et que de nombreux Afghans également ont condamné. Mais j'insiste sur le fait que tout ça arrive au terme d'une longue séquence historique d'une vingtaine, 25 ans, pendant laquelle il y a eu l'occupation soviétique, et donc effectivement ils ont représenté à un moment la paix. Quant au trafic de drogue, plusieurs thèses sont en... Effectivement, la production de pavots avait considérablement reculé. Il y a deux hypothèses. Certains disent qu'elle avait reculé parce que les talibans voulaient vraiment combattre le trafic de drogue. D'autres disent qu'ils ont arrêté une année de planter. Ils ont demandé à ce qu'on arrête de planter tout simplement pour faire remonter les prix qui étaient en chute libre. Donc là, honnêtement, je crois que les deux hypothèses peuvent être défendues. Voilà.
Alors, vous montrez aussi dans votre livre comment les puissances occidentales reproduisent les mêmes erreurs que celles des envahisseurs précédents, anglais ou russes notamment. Comment vous expliquez la reproduction de ces erreurs?
Parce qu'en fait, on ne sait pas y faire dans ces pays. Parce que le fond du problème, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose dans un pays comme l'Afghanistan. On peut y aller, y rester quelques mois peut-être, intervenir quelques années, mais au final, on s'y enlise. Vous savez, ce que l'OTAN et l'Alliance américaine et le président Obama sont en train d'essayer de faire en Afghanistan aujourd'hui, c'est exactement ce que les Russes sont parvenus à faire. Tout le monde a à la bouche le terme d'afghanisation, c'est-à-dire, dit voilà, on va essayer de construire un État avec une armée, une police suffisamment...
Oui, ce qui renvoie à la vietnamisation,
à l'irakisation. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que les soviétiques sont parvenus à ça. Ils ont réussi leur coup. Quand les soviétiques entrent en Afghanistan à Noël 79, ils en partent 10 ans plus tard, en février 89. Mais quand ils partent d'Afghanistan, contrairement à l'image un peu trop rapide qu'on en a, où on dit, ils sont partis battus militairement, c'est beaucoup plus, la situation était beaucoup plus complexe à l'époque. Ils laissent derrière eux un régime communiste, qui va tenir pendant 3 ans et demi, à Kaboul, qui va continuer la guerre, avec le soutien des soviétiques. Et pourquoi ce régime tombe, le régime de Najibullah tombe? Tout simplement parce que l'Union soviétique disparaît et arrête de le financer. Mais ils ne sont pas partis pour céder la place à la résistance. Quand ils sont partis, ils ont laissé derrière eux un régime communiste. C'est ce que nous essayons de faire à notre manière. Nous essaierons de laisser derrière nous un régime pro-occidental avec une armée, et on le financera pour qu'il essaie de tenir quelques années après notre départ, si on y arrive. Ça, c'est la bonne hypothèse.
Alors, comme la plupart des observateurs occidentaux de ce conflit, vous posez la question, faut-il quitter l'Afghanistan? Et votre réponse à vous, elle est claire, sans ambiguïté. Oui, et le plus vite possible, dites-vous. Et vous ajoutez que cette guerre est un piège.
Oui. Alors, en même temps, je ne voudrais pas que ma position soit caricaturale. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on parte le plus vite possible, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fuit l'Afghanistan. Il faut qu'on trouve le plus vite possible un bon moyen de s'en sortir. Bon moyen pour nous Français, parce que on est en guerre là-bas, et bon moyen pour les Afghans et pour la communauté internationale. Il n'est pas question quand même que nous laissions derrière nous un foyer de terroristes qu'on sera obligé d'aller... Donc il faut très vite trouver le bon moyen de s'en sortir. C'est ça que j'ai voulu dire. La politique de la France a beaucoup changé en Afghanistan. À l'époque du président Chirac, elle était très prudente, avec un engagement militaire relativement modeste. Cette politique a beaucoup changé depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Je pense que nous ne sommes pas au bout. Mon regard est un peu critique. Je pense qu'il faudrait qu'on soit prudent sur le niveau de notre engagement.
De l'engagement militaire. Le général Stanley McChrystal, qui commande les forces américaines en ce moment là-bas, a reconnu cette semaine, je le cite, que la situation était très grave et que les talibans aujourd'hui avaient mis en place un véritable contre-pouvoir dans plusieurs provinces. Ça veut dire que la partie militaire est finie qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Je ne suis pas sûr que les talibans puissent gagner au sens où ils puissent contraindre les armées occidentales à partir.
Mais au sens politique.
La société afghane est plus complète. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les Occidentaux contre les talibans. Il y a des groupes divers, dont le président Karzai, Je crois que la partie n'est pas jouée. Je pense que nous n'avons pas les capacités de laisser derrière nous un Afghanistan démocratique, développé, stable et en paix. Ça, je pense pas que quiconque au monde n'ait la capacité de le faire. Je ne suis pas sûr non plus que les talibans soient aux portes du pouvoir. Ils contrôlent de vastes zones, incontestablement. Ils les contrôlent peut-être plus la nuit que le jour, selon les vieilles techniques de la guérilla. Les armées occidentales sont à la peine, c'est évident. Le grand risque pour les armées occidentales, c'est qu'elles se renferment dans leur camp, et qu'elles n'en sortent plus, abandonnant le pays. Ça c'est une possibilité. Il est un peu trop tôt pour le dire. C'est vrai que la politique du président Obama, politique très offensive en Afghanistan, il envoie des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires. Ça a changé par rapport à l'année dernière. Ce qui a changé, c'est l'arrivée d'Obama et la volonté d'y aller très très fort en Afghanistan. Et il est trop tôt, honnêtement, pour savoir ce que ça va donner.
Alors sur le plan politique, je le disais au début de cette émission, l'élection présidentielle, c'est le 20 août. Hamid Karzai est donné grand favori. Il y a 41 candidats au total. Hamid Karzai qui appelle régulièrement depuis quelques mois, depuis quelques semaines, qui appelle les talibans à participer au processus politique. Ouais. Ça vous inspire quoi, ça?
Les Occidentaux aussi font la même chose, c'est-à-dire qu'on est à la recherche d'interlocuteurs, on est à la recherche de ce qu'on appelle des talibans modérés. taliban modéré, vous savez.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, c'est un taliban qui accepte une valise de dollars et qui se met à notre table. Ce jour-là, il devient modéré. Voilà. Alors, pourquoi il accepte, ça, on peut gloser à l'infini. Tout le monde recherche des talibans modérés depuis un an et demi. Les Saoudiens ont fait beaucoup de choses pour essayer de... Pour l'instant, sans succès. Pour l'instant, sans succès, parce qu'effectivement, les talibans ne sont pas forcément dans une logique politique, au sens où ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'islamiser le pays. Et pas forcément de conquérir le pouvoir.
Brièvement, cette élection présidentielle peut ou pas changer la donne?
Karzai sera réélu. Les Américains ont hésité et ils ont décidé de le maintenir. Donc Karzai sera réélu. Voilà.
Il sera réélu et il aura le soutien de la communauté internationale.
Voilà.
Merci Jean-Dominique.
Je vous en prie, merci
d'être venu à Portrait d'Orient sur RFI. Je rappelle le titre de votre livre, Mourir pour l'Afghanistan, avec un sous-titre qui est très parlant, Pourquoi nos soldats tombent-ils là-bas? Un ouvrage passionnant, c'est aux éditions Jacob Duvernay. Merci à Jean Legrand pour la réalisation, à Julien Leng pour la technique. Alors, prochain rendez-vous avec Portrait d'Orient, c'est samedi, même heure, même fréquence sur RFI. Bonsoir à toutes et à tous. Thank you.